franceinter.fr. Dur Alain Baraton, vous ne pourriez pas être pape.
Oui.
Avec tout ce que vous racontez.
Mais absolument, ne le croyez pas, je suis un saint homme, parfois du moins.
Nous allons parler ce matin des jardins du château de Kolbsheims, qui sont considérés comme les plus beaux d'Alsace.
Et ils le sont, parterres à la française, terrasses à l'italienne, jardins à l'anglaise. L'endroit est si beau qu'en 2004, il a été classé jardin remarquable par le ministère de la Culture. Précisons aussi qu'il bénéficie depuis 1972 d'une inscription au titre des monuments historiques.
Alors non seulement ils sont beaux, mais ils ont reçu de personnalités importantes.
Oui, il est possible de citer le compositeur et écrivain russe Nicolas Nabokov, Igor Stravinsky, l'écrivain Julien Green et le philosophe Jacques Maritain qui écrit quand il vient sur place. Je rêve à la paix de votre terrasse d'où l'on peut voir le monde sans être du monde. C'est aussi cela le château de Kolbsheims. Pardonnez-moi si je prononce mal le terme, mais j'ai du mal avec les mots d'origine alsacienne. Tout à fait.
Oui,
car de la terrasse, on apprécie une vue sublime qui permet d'embrasser du regard toute la plaine d'Alsace et la chaîne des Vosges.
Mais d'avis qu'une menace pèse sur ce château.
Il a en effet été décidé de construire une autoroute à quatre voies. Et si rien n'est fait, elle traversera le parc en aérien sous la forme d'un viaduc de 10 mètres de haut, barrant d'un trait tout le paysage à 400 mètres du château, le tout étant prolongé d'un remblai d'une hauteur de 17 mètres.
Vous avez pourtant dit, si je ne m'abuse, mon cher Alain, que le lieu était inscrit au titre des monuments historiques.
C'est exact, mais cela n'affecte en rien les autorités compétentes. Les temps ont bien changé. Et encore, l'administration française protégeait les monuments historiques. Dans les années 1840, ces derniers sont recensés, inventoriés, puis une loi votée le 30 mars 1887 précise pour la première fois les critères et la procédure de classement des monuments historiques. Aujourd'hui, la même administration condamne les bâtiments et les jardins alors qu'elle devrait garantir leur protection et leur devenir. Vous rendez-vous compte du grotesque de la situation? Pendant des décennies, les propriétaires du château ont dû demander l'avis des architectes des bâtiments de France pour choisir la couleur des volets ou autoriser la simple pose d'une antenne de télévision. Et l'on impose aujourd'hui à ces mêmes propriétaires de voir leur domaine massacré pour un projet de circulation automobile avec un droit, un seul, celui de se taire.
Alors on estime à 40 000, c'est ça, hein,
oui,
le nombre de voitures qui vont emprunter cette nouvelle autoroute?
Oui, une nouvelle autoroute que les promoteurs qualifient de GCO, Grand Contournement Ouest de Strasbourg. Alors 40 000, c'est aussi le nombre de voitures qui empruntaient chaque jour les voies sur berge à Paris, et Anne Hidalgo a pourtant préféré neutraliser cette route. Si à Paris, je cite les communiqués de la mairie, priorité est donnée à l'air pur et aux piétons, dois-je en déduire qu'à Strasbourg, priorité est donnée à la pollution et aux voitures?
Alors j'imagine qu'Audrey Azoulay, la ministre de la Culture, est informée de la situation.
Oui, bien sûr, elle l'est d'autant plus qu'une lettre de protestation signée par un grand nombre de personnalités lui a été envoyée il y a peu. Mais que peut-elle faire? Pas grand-chose, d'autant que les projets et les tractations ont été menés bien avant qu'elle ne s'installe rue de Valois. L'idéal serait, un peu comme pour les Mistral destinés à la Russie, d'annuler la commande, mais il paraît que ce n'est pas possible, c'est ce que l'on appelle la continuité de l'État.
Que peut-on faire?
Alors, eh bien, moi je vous conseille d'aller dès aujourd'hui dans les jardins du château de Kolbsheims, ils sont à 15 km de Strasbourg. D'y aller pour apprécier le château, construit au tout début du XVIIIe siècle, et de contempler un jardin en terrasse qui descend en gradin jusqu'à la rivière La Bruche. D'y aller pour contempler les statues et les arbres centenaires qui ornent le domaine, et d'y aller pour soutenir, bien sûr, les propriétaires du site qui ont décidé d'offrir aux auditeurs de France Inter, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, eh bien une journée gratuite, porte ouverte. Aujourd'hui, pour vous, auditeurs, chéris, eh bien, le domaine vous ouvre gratuitement les portes toute la journée. Alors, allez-y seul, en famille, en amoureux, et vous comprendrez pourquoi il faut protéger les jardins du château de Kolbsheims.
Oui, c'est ça.
Kolbsheims.
Parce qu'alors là, attendez, là, nous avons un Alsacien à la table.
Oui. Mulhouse.
Oui, bah, tout à fait.
Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, je connais parfaitement.
Allez-y, Pierre Veille.
Voilà, Kolbsheims.
Très bien. Vous connaissiez ce château?
Non.
Mais après, il faut faire encore une pétition, il faut faire quelque chose.
Oui, vous savez, les pétitions ne servent à pas grand-chose. Regardez, on en parlera très vite, ce qui se passe autour du jardin des Serres d'Auteuil. Des pétitions ont réuni des milliers de signataires et je crois, je ne l'affirme pas, mais je crois bien que les travaux ont repris suite à une décision du Conseil d'État et la Fédération Française de Tennis n'attend pas pour démolir ou abattre des arbres. Non. Aujourd'hui, malheureusement, quantité de jardins sont en grande difficulté. Effectivement, les jardins, bah, c'est quand même l'identité. Vous savez, on parle beaucoup d'identité était notre pays, c'est aussi ça, un jardin. C'est le souvenir qu'on a tous, c'est des souvenirs d'enfance dans un jardin. Il faut absolument les protéger. Oh, juste un petit mot, parce que Pierre Veil parlait de Mulhouse, ville apparemment qu'il semble connaître et apprécier.
Mais il y est né.
Eh bien, je rappelle à Pierre que du 6 au 16 octobre, à Mulhouse, c'est Folie-Fleurs, une grande manifestation florale de très grande qualité qui reçoit chaque année des milliers de visiteurs. Ce qui prouve bien que les jardins, d'ailleurs, attirent quantité de monde. Donc c'est Folie-Fleurs à Mulhouse. Vous y croiserez peut-être Pierre Veil.
Ça m'étonnerait, ça. Il ne va pas souvent.
Je m'occupe du 6-9.
Voilà, c'est ça. Donc, Victor a une vieille glycine dont un embranchement partant de la base du tronc principal est pourri sur toute sa longueur. Le reste semble encore sain. Je l'ai arraché et ça n'a pas constaté de champignons. On m'a conseillé d'utiliser de l'aliette à la base.
Non, alors déjà, je rappelle que les plantes sont des êtres vivants qui ont une qualité inouïe. Un être, un mammifère, un humain, quand il est en grand danger, peut avoir comme solution de prendre la fuite. C'est pour ça que nous avons des jambes et que nous pouvons courir. Un arbre ne peut pas se déplacer face à un péril, mais il est capable de sectoriser une partie de son anatomie qui est atteinte et de s'en débarrasser. On a tous vu des arbres qui étaient porteurs de branches mortes. Que se passe-t-il ? L'arbre, au lieu d'être entièrement contaminé par un champignon ou une maladie, est capable de laisser mourir une branche, de ne plus l'alimenter en sève. La branche meurt, sèche et elle tombe. L'arbre s'est ainsi débarrassé d'un problème. Eh bien, je pense que pour la glycine, il en est de même. La glycine a eu un problème, lequel, je ne sais pas, et elle a préféré se débarrasser de cette branche, de ce sarment, plutôt que l'ensemble de sa plante ne soit atteint. Pour ce qui est de l'aliette, pour répondre directement à la question, c'est un fongicide, c'est également un bactéricide qui est souvent utilisé pour traiter les conifères qui souffrent de quantité d'attaques cryptogamiques. Dans ce cas précis, ça ne servira à rien, mais l'occasion de rappeler que l'aliette ne sert pas que pour les conifères. On peut l'utiliser contre quantité de maladies, attaques de champignons, comme le phytophthora, comme le mildiou, comme le idiome, comme le dépérissement du collet, etc. etc. Donc il n'y a rien à faire, il faut simplement la couper la branche à la base s'il reste encore quelques filaments et regarder l'évolution de la situation.
Petite question pour gros tracas de Thomas, comment se prémunir des aoûtas ?
Alors ça c'est terrible les aoûtas, ce sont des acariens qui se mettent dans les pelouses. Pour faire simple, vous êtes avec des amis, il fait un temps merveilleux, vous êtes par exemple Pierre Veil et pieds nus dans l'herbe.
J'ai rien fait,
et puis il y a quelques petites piqûres qui viennent le saisir. Oh, il n'y prête pas attention.
Quelle horreur. Et le lendemain, si, ça, je peux vous dire, s'il est piqué, on n'en entend pas parler.
D'autant plus que le lendemain, les pieds de Pierre ne seront plus des pieds, mais clairement Elephant Man. C'est épouvantable. C'est extrêmement douloureux. Il n'y a pas grand-chose à faire. Simplement, quand on est dans la nature, on ne se déchausse pas sur l'herbe. Deuxièmement, quand on tond et que le jardin est habituellement fréquenté par des aoûtas, on met de quoi évacuer les tontes pour évacuer les petites bestioles. Et puis, on se rappelle qu'ils détestent l'eau. Donc, avant d'utiliser la pelouse, on arrose un petit peu. Et logiquement, les bestioles devraient rester tranquillement cachées.
Voulez-vous que je vous dise ?
Oui.
On se retrouve demain ?
Avec plaisir.
À demain, le marathon. Oui.